Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Une affaire criminelle aujourd'hui assez récente, puisque les faits datent de 2006 et le dernier procès remonte à 2011. Il s'agit de la disparition de Raphaël Lomoro à Völklingen, en Moselle, près de Forbach. Et c'est une affaire à classer dans la catégorie des crimes passionnels, les plus intéressants sans doute parce que ce sont ceux qui nous parlent le plus, ceux qui nous ressemblent le plus. Est-ce que je serais capable de faire ça, moi, hein? Je ne vous en dis pas plus. Voici cette histoire que j'ai écrite avec Thomas Audouard, réalisation de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Au début, c'est une histoire exotique. L'histoire d'un homme, un Français, qui cultive de la vanille à Madagascar depuis 5 ans et qui disparaît. Tous les ans, normalement, il revient une ou deux fois par an en France, où il a laissé femme et enfants. À Noël 2006, il ne rentre pas. Et là, on peut tout imaginer, hein. Madagascar, c'est un peu le Far West. Est-ce qu'il y a eu une embrouille, là-bas? Un concurrent, peut-être? Ça marche bien, son affaire de vanille. Ou alors une femme. Une histoire de femme. Mais l'issue de cette histoire, vous verrez, est beaucoup moins exotique que prévu. Beaucoup moins. Cet homme, il s'appelle Raphaël Lomoro. Il est d'origine italienne et toute sa jeunesse, il a été mineur de fond dans les mines de charbon de Lorraine. Et puis c'est un métier usant. Dès qu'il a pu, il a pris sa retraite anticipée et il s'est lancé dans un projet fou. La production et la commercialisation de vanille à Madagascar. Sacrée aventure pour un mineur. Et il part tout seul. Il laisse en France, dans la maison familiale de Völklingen, près de Forbach, sa femme Simone et leurs 6 enfants. Après 23 ans de vie commune, disons qu'il y a comme un peu d'usure dans le couple. Il est parti il y a 5 ans, et ma foi, ben ça marche bien, son affaire de vanille. Il gagne dans les 5000 euros par mois, au soleil. C'est pas mal, c'est beaucoup plus que ce qu'il gagnait à la mine, c'est sûr. Et donc, normalement, il rentre en France 2 fois par an, pour voir les enfants, sa femme, la famille. Il a 12 frères et sœurs qui vivent pour la plupart en Lorraine. En principe, il rentre une fois à Noël, et une fois l'été. Sauf qu'à Noël 2006... il ne vient pas. Dans les mois qui suivent, janvier, février, mars, avril, mai, juin, il ne donne aucune nouvelle. C'est l'une de ses sœurs dont il est très proche, Mariette, qui s'en étonne la première. Alors elle lui laisse des messages. 1, 2, 3.
Bah dis donc, Rafa, t'exagères de jamais rappeler. Nous, on commence à s'inquiéter ici. Allez, donne-nous des nouvelles. Juste un petit coup de fil, quoi. Ça fait longtemps. On espère que ça va pour toi. On t'embrasse.
Et quand arrive le mois de juin et que Raphaël n'a toujours pas donné de nouvelles, là les Lomoro sont carrément inquiets. Et Mariette fait le tour des frères et sœurs, personne n'a de nouvelles. Elle appelle aussi sa belle-sœur, Simone. Allô? Bonjour Simone. T'as des nouvelles de Raphaël?
Ben non, aucune.
Pas de coup de fil, rien?
Ah non. Non mais tu sais Raphaël, il est comme ça, hein?
Comme ça, non? Normalement, il vient à Noël. Il n'est pas venu. On l'appelle, il ne répond pas. On lui laisse des messages, il ne rappelle pas. C'est inquiétant. Et donc, à un moment, mi-juin, Mariette se rend à la gendarmerie de Forbach pour signaler la disparition de son frère. Bah écoutez... C'est vrai, il vient peu en France, mais on a toujours un petit coup de fil. Il n'est pas venu à Noël, il aurait dû appeler. Je pense qu'il lui est arrivé quelque chose. Madame, à ce stade, la seule chose qu'on puisse faire, c'est ouvrir une enquête dans l'intérêt des familles. Mais je vais être clair avec vous, hein. Au bout de l'enquête, on pourra vous dire s'il est vivant. Mais s'il ne veut pas communiquer avec vous, s'il ne veut pas qu'on vous dise où il est, c'est son droit, c'est sa liberté. On pourra rien faire de plus. Je vous mets en garde. Bah déjà, si vous faites ça, ça nous enlèverait un poids. Le savoir en vie, c'est tout ce qui compte pour nous. Mais j'ai peur, vous savez, que ce soit plus grave. Les gendarmes ont du mérite. Parce que ça sera pas facile d'enquêter à Madagascar. Dès qu'on met les pieds hors de France, ça se complique. Normalement, les pays doivent s'entraider sur le plan judiciaire, mais il y a loin de la coupe aux lèvres. Il est probable que les Malgaches vont traîner des pieds. Ça va être long. Mais bon, les gendarmes commencent à se rencarder. Et ils commencent par l'ambassade de France à Madagascar. Au moins, eux, ils ne sont pas censés traîner des pieds. Et là, ils apprennent que Raphaël Lomoro vit depuis 2002 dans une petite ville portuaire du sud-est de l'île, Tamatave. C'est là qu'il a installé son entreprise qui emploie une dizaine de personnes. Mais surtout, par les compagnies aériennes, ils découvrent que Raphaël est venu en France à Noël. Tiens, tiens. Après vérification auprès de l'aéroport de Tananarive, il est monté dans un avion pour Paris le 14 décembre. Oui, monsieur. Et il atterrit à Roissy le 15, à 7h20. La police de l'air et des frontières a enregistré son passage et la douane aussi. Il a débarqué avec un gros paquet de vanille. Les douaniers ont dû parlementer un peu. Donc, il est venu en France à Noël. Et dès qu'il est descendu de l'avion, il a passé des coups de fil. Ça, on le sait, grâce à son portable. Plusieurs coups de fil depuis l'aéroport de Roissy, juste avant 9h. Et après, plus rien. Plus rien. Son portable cesse d'émettre. Une certitude, il n'a pas pris l'avion du retour. Intéressant. Alors, qui est-ce qu'il a appelé en posant le pied à Roissy? Eh bien, un de ses amis de Forbach. Les gendarmes vont le voir tout de suite. Il vous a dit quoi au téléphone? Vous pouvez nous donner le maximum de détails qui vous reviennent? Raphaël? Bon, il n'a pas parlé longtemps. Il m'a dit qu'il venait d'atterrir, qu'il passerait me voir à Forbach l'après-midi. C'est à peu près tout ce qu'il m'a dit, je crois. Et donc, il est venu vous voir l'après-midi? Ah non? Non, depuis ce coup de fil, pas une nouvelle. Au départ, je me suis dit qu'il avait un empêchement, qu'il viendrait plus tard. Mais il ne m'a pas rendu visite de toutes les vacances. Ni depuis, d'ailleurs. Bien. Et sa femme, alors, Simone, est-ce qu'il l'a prévenu qu'il arrivait le 15 décembre à Roissy? Ah ben oui. Et d'ailleurs, ce matin-là, on s'est levé tôt pour aller le chercher à Roissy. Vous dites « on ». Qui « on » ? Ben, moi et ma fille Samantha. Elle a quel âge, votre Samantha? À 17 ans. Et donc, vous l'avez retrouvée à Roissy? Ben, on a attendu. On s'est dit qu'il s'était fait coincer au contrôle. On a attendu, oh, au moins 2 heures. Et ensuite? Ben ensuite, on l'a vu arriver. Mais bon, 4 mois que je l'avais pas vu, il a pas été sympa. C'est-à-dire? Ben, je venais de me faire faire de l'orthodontie, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, alors tu t'es fait refaire la salle à manger? Vous voyez un peu l'ambiance, après 4 mois sans me voir.
Donc ça s'est pas bien passé à l'arrivée à Roissy. Et après alors?
Ben on est parti en voiture. Qui conduisait? Ah ben moi. Samantha était à côté et lui derrière.
Et donc vous avez pris tous les trois la route de Folkling?
Ah ben non, pas vraiment, hein. Parce qu'avec cet accueil... J'aime autant vous dire qu'on s'est embrouillé. Nom d'oiseau et tout le tralala, quoi. Donc, dispute. Et là, Raphaël me demande de descendre de voiture.
Elle dit qu'ils ont roulé 500 mètres, pas plus, et qu'elle l'a laissé, eh ben, à Roissy.
Où pensez-vous qu'il est allé ensuite? Ah ben, je pense clairement qu'il est reparti à Madagascar. Moi, j'ai plus de nouvelles.
Et non. Ça, les gendarmes en sont certains, il n'est jamais rentré à Madagascar. Il n'a jamais repris l'avion, jamais. Alors à ce stade, il y a clairement 2 pistes. La première est séduisante. Raphaël Lomoro fait des jaloux à Madagascar à cause de son affaire de vanille florissante. Alors il se fait dessouder par la mafia malgache. Sauf que, pourquoi est-ce qu'il serait venu faire ça en France? Hein? C'était tellement plus simple de le dézinguer sur place. Deuxième hypothèse, eh bien c'est qu'il s'est fait zigouiller par sa femme à sa descente d'avion. Et pour être honnête, c'est celle-là qui tient la corde à la gendarmerie de Forbach.
pour une raison très simple. Les deux femmes, la mère et la fille, sont deux sacrées cocottes. Et ça, les gendarmes s'en aperçoivent assez vite. Vous savez comment on l'appelle, la jeune Samantha, dans son village ? La Paris Hilton de Forbach. Et pourquoi ? Parce que c'est une bimbo, toujours sapée comme une princesse, qui achète sans compter des chaussures, de la lingerie, tout ça avec le chéquier de papa. Et régulièrement, elle organise des fêtes où l'alcool coule à flot. Il semble que son père se soit plusieurs fois agacé de son train de vie, à ses frais. Quant à Simone, la mère, pourquoi est-ce qu'elle a résilié l'abonnement téléphonique de Raphaël depuis Noël ? Pourquoi est-ce qu'elle s'est débarrassée de ses vêtements et de ses outils ? Pourquoi elle a donné la voiture de son mari à des amis ? Comment savait-elle qu'il ne reviendrait pas ? Rassurez-vous, pendant ce temps-là, elle a continué à percevoir sa retraite. Les gendarmes l'interrogent à nouveau.
« Madame, vous vous comportez comme si votre mari n'allait pas revenir. Comment est-ce que vous expliquez ça ?»« Ah ben, je vais vous le dire, pourquoi il ne va pas revenir. Je vais vous le dire. Il a refait sa vie. À Madagascar, il y a une femme, une jeune, elle a dans les 30 ans. Il a deux enfants avec elle. » Alors que voulez-vous ? Bah, il nous a laissé tomber, moi et les 6 enfants. C'est pour ça que j'ai fait tout ça.
Et de raconter que c'est Samantha qui a découvert le poteau rose. La dernière fois que son père est venu à Folkling, elle est allée fouiller sur son ordinateur portable. Et dans le dossier photo, elle a trouvé la photo d'une femme et de 2 enfants en bas âge. Voilà. La fille, bien sûr, l'a répété à sa mère. Et ça ouvre une autre piste. La piste de la maîtresse malgache. Il faut la retrouver, cette femme. Et les gendarmes la retrouvent. Et sur ce point, mère et fille n'ont pas menti. Raphaël avait bien refait sa vie à Madagascar. Sauf que la dame est sans nouvelles de lui depuis Noël. Il est parti en France, elle ne l'a jamais revu. Elle raconte que l'exploitation de vanille de Tanatave est à l'abandon, que les employés n'ont pas été payés et qu'ils sont tous partis. Donc Raphaël ne se planque pas chez sa maîtresse à Madagascar. Il a vraiment disparu en France, juste après son atterrissage à l'aéroport de Roissy. Je vous le redis, ce sont de sacrées cocottes. Je vous ai déjà parlé de Samantha, la Paris Hilton de Forbach, et de Simone qui s'est allègrement débarrassée des affaires de son mari disparu. Il n'y a pas que ça. En enquêtant à Folkling, les gendarmes découvrent assez vite un détail dont Simone a oublié de leur parler. Elle a un amant.
Bah bien sûr qu'elle a un amant. Il s'appelle François. Elle vous l'a pas dit ?
Eh ben non, elle ne l'a pas dit. Elle a joué les femmes indignées, elle a dénoncé la maîtresse de son mari, mais elle a omis de dire qu'elle aussi le faisait cocu. Ce qui était assez naïf de sa part parce que tout le monde est au courant. Tout le monde. Alors ce François, les gendarmes l'identifient assez vite. 59 ans, retraité. Normalement, il vit en région parisienne. Je dis normalement parce que depuis le mois de juillet 2006, il vit chez Simone. Enfin, chez Simone et Raphaël. Il y a installé ses affaires, il ne se cache pas. Et il se sent tellement chez lui qu'il est allé voir un architecte pour réaménager la maison de Simone. Il a des plans. Et si c'était lui qui avait effacé Raphaël de la planète Terre. Il est temps de placer tout ce petit monde en garde à vue. Le 13 novembre 2007, les gendarmes interpellent toute la Smala. Simone, ses 2 filles aînées, Samantha et Valérie, et François, l'amant. Et qui dit garde à vue, dit en général perquisition. Les gendarmes commencent par fouiller l'appartement de l'amant en région parisienne. Eh, le type possède toute une quincaillerie, un stock d'armes de collection, impressionnant. Et si parmi ces armes se trouvait l'arme du crime ? Supputation, hein, parce que pour l'instant, on n'a pas de cadavre. Les armes sont envoyées au laboratoire.
Les balisticiens les examinent sous toutes les coutures. Elles sont démilitarisées. Toutes inutilisables, réduites à prendre la poussière accrochée à un mur pour la décoration. François est dans les clous, il n'a pas enfreint la loi. Alors maintenant, fouillons son garage et sa voiture. Dans le coffre, tiens, des bottes en caoutchouc, et des gants en latex, et une pelle pliante. Et pourquoi faire, diable ? Dans la voiture elle-même, on fait pchit-pchit avec une bombe de Blue Star, et ça alors, il y a des traces de sang. Les gendarmes font des prélèvements. Crotte ! Les traces de sang sont inexploitables. Alors passons à l'interrogatoire de François. Bien. Pouvez-vous nous dire où vous étiez le 15 décembre 2006 ? Oui. Ah, je peux tout à fait vous le dire. Le vendredi, je prends des cours de tibétain à Dauphine. Donc j'étais là-bas. Vous pointez dans ces cours ou est-ce que quelqu'un pourrait attester de votre présence ce jour-là ? Ah ben non, on pointe pas. C'est la fac. Mais les profs vous le diront, hein, je rate pas un cours. Problème. Le prof de tibétain est interrogé. Il est incapable de confirmer avec certitude la présence de François ce jour-là. Il assiste à ses cours, c'est vrai. Mais est-ce qu'il était là le 15 décembre 2006? Le prof ne le sait pas. Les gendarmes se font envoyer la fadette de François, le relevé de son téléphone portable, doublé de la localisation. Eh bien, il n'a pas menti. Le 15 décembre, il était à la fac de Dauphine, il assistait à son cours de tibétain. Passons maintenant dans le bureau d'à côté, où Valérie, la fille aînée de Raphaël et Simone, est en garde à vue, elle aussi.
Mademoiselle, pour quelle raison est-ce que vous ne vous êtes pas inquiétée de la disparition de votre père ?
Bah vous savez, on s'est jamais trop entendu avec mon père. J'ai été élevé par mes grands-parents, alors pourquoi voulez-vous que je me soucie de son absence ?
Bien. Allons maintenant dans le bureau où est interrogée Samantha, qui intéresse bien les gendarmes, puisque le 15 décembre 2006, elle était avec sa mère à l'aéroport. Il n'y a pas grand-chose à en tirer de Samantha. Elle raconte à nouveau la dispute, le père qu'elles abandonnent au bord de la route à Roissy, et elle s'en tient là. Et Simone, alors ? Il faut d'abord que je vous raconte ce qu'on a trouvé chez elle pendant la perquisition. Vous allez voir, c'est passionnant. On a trouvé au rez-de-chaussée la carte vitale et la carte d'identité de Raphaël. Qu'est-ce qu'elles font là ? On a aussi trouvé l'ordinateur portable de Raphaël. Qu'est-ce qu'il fait là ? Et surtout au sous-sol. On a trouvé des armes. Ce qui est tout à fait normal, Raphaël avait une licence de tir, il avait le droit de détenir des armes. Sauf qu'il en manque une. Il manque un revolver, un 357 Magnum. Simone est donc interrogée sur tout ça, la carte d'identité, la carte vitale, le revolver. Elle n'a rien à dire. Mais une garde à vue, c'est long. Nous voilà à la 36e heure.
Vous n'avez pas beaucoup de réponses, madame. Et je ne vous ai pas encore demandé de justifier pourquoi, par exemple, vous aviez effectué 4 retraits d'argent à Forbach entre le 15 et le 27 décembre 2006. Vous ne le saviez pas ?
Simone est épuisée. Et elle répond :
Vous vous occuperez de mes enfants ?
Elle est mûre. Et la voilà qui reprend son récit de la matinée du 15 décembre. Elle est bien allée chercher son mari, à Roissy, avec sa fille. Et il a bien été odieux avec elle. Mais il n'est pas descendu de voiture. Ils ont pris la route de Forbach.
Et puis à un moment, il était à l'arrière, il s'est endormi. J'ai roulé, je sais pas moi, une heure. Je me suis arrêté sans trop faire de bruit. Il dormait toujours. Puis j'ai attrapé le revolver que j'avais pris à la maison.
Votre fille Samantha était là ?
Ouais. Oui, je lui ai demandé de pas regarder, et puis je lui ai tiré une balle dans la tête.
Comment se fait-il qu'on n'a pas retrouvé de sang dans votre voiture ?
Oui, il n'y en avait pas beaucoup. Ça n'a pas beaucoup coulé, c'est Samantha qui a nettoyé, avec des mouchoirs en papier. Ça suffit.
Après, Simone dit qu'elle lui a mis une couverture sur la tête, et que mère et fille, elles ont repris la route. Il leur restait 300 kilomètres, et pendant 300 kilomètres, elles ont roulé avec le cadavre de Raphaël à l'arrière. Le mari de l'une, le père de l'autre. Il en faut du sang-froid pour faire un truc pareil. 300 kilomètres. Elles arrivent à Folkling vers 15 heures. Elles mettent la voiture au garage et elles la ferment à clé.
Et là, qu'est-ce que vous avez fait ? Ben, j'avais des cartes de vœux à faire pour le nouvel an. Je m'y suis mis tout l'après-midi.
Des cartes de bonne année, avec un cadavre dans le garage. Sacré Simone ! Et après ? Après, elle retourne à la voiture. Ça fait 6 heures que le cadavre est à l'arrière. La nuit est en train de tomber. Elle se met au volant. Et elle va, dit-elle, jusqu'au verger. Elle essaye de sortir le corps. Il est trop lourd. Alors elle manœuvre, elle met la voiture dans le sens de la pente et elle arrive à le faire tomber dans l'herbe.
Et ensuite, vous avez fait quoi du corps, madame ? Bah, je me suis souvenu que Raphaël m'avait dit un jour qu'il aimerait être incinéré. Alors je l'ai brûlé.
Comment ? Elle dit qu'elle a mis 2 palettes de bois sur le cadavre, qui était allongé sur le dos. Qu'elle a ajouté de vieux vêtements, elle a imbibé le tout de 5 litres d'essence et elle a mis le feu. Et elle a entretenu le brasier, dit-elle, pendant plusieurs jours. Elle raconte qu'ensuite, elle a ratissé les débris qui restaient, qu'elle les a jetés à la poubelle et qu'au printemps, elle a semé du gazon.
Oh ben, il n'y a plus de traces, hein ? Vous verrez, il n'y a plus de traces.
Et l'arme ? Le 357 Magnum, vous en avez fait quoi ?
Je l'ai détruit avec une masse. Puis j'ai foutu les morceaux à la poubelle.
Simone vient d'avouer dans le détail le meurtre de son mari. Les gendarmes, bien sûr, vont sur place. Et c'est vrai qu'on ne voit plus rien. Ils trouvent tout de même un tout petit morceau de dent et de minuscules fragments d'os qui s'avéreront être des os d'animaux. Et là, eh ben, il y a un doute. On aurait fait brûler un cadavre ici il y a moins d'un an et il n'y aurait aucune trace. La méthode est étonnante. Je me doute que vous n'avez jamais fait brûler de cadavre et moi non plus. Mais je vous jure que si vous mettez des palettes en bois sur un cadavre, il n'y a pas beaucoup de chances qu'il brûle. C'est un peu comme si, au barbecue, vous mettiez le charbon sur la brochette. Vaut mieux le mettre dessous. Donc, il y a un doute qui va demeurer jusqu'au bout de cette affaire. Où est le cadavre ? L'a-t-elle vraiment fait brûler ? Quoi qu'il en soit, Simone Lomoro n'égla pas, est mise en examen et écrouée. Et sa fille Samantha, qui avait 17 ans, est mise en examen pour modification de la scène de crime et envoyée en prison, elle aussi. La fille aînée Valérie est relâchée. Mais l'instruction se poursuit. Et au fil des interrogatoires, Simone se construit une défense qui va éclairer ce meurtre sous un jour nouveau. Elle dit que Raphaël était un tyran, qu'il l'a battée, qu'il l'a cognée, qu'il l'a brûlée avec sa cigarette. Et surtout, elle dit qu'il a violé sa fille aînée, Valérie. Elle l'a tuée parce qu'elle n'en pouvait plus de ses violences. Est-ce qu'on doit la croire ? Bah, ce sera à la cour d'assises de trancher. Si elle l'a tué de sang-froid et sans raison, elle prendra perpète. Si elle arrive à convaincre qu'il l'a batté, elle peut espérer moins, beaucoup moins. Les enfants, en tout cas, confirment que le père était violent. Et puis au moment de boucler le dossier d'instruction, il reste un doute sur le rôle de Samantha. Est-ce que Simone, en vérité, ne couvre pas sa fille ? On se pose la question parce qu'un jour, le juge présente plusieurs armes à Simone.
Allez-y, prenez celle que vous avez utilisée.
Elle ne désigne pas le 357 Magnum, elle désigne un Beretta. C'est troublant. Lors de la reconstitution qui a lieu le 25 novembre 2007, sur l'aire d'autoroute sur laquelle elle dit avoir tué son mari, on lui demande de prendre l'arme à la main.
« Allez-y, prenez-la !»
Elle ne sait pas la tenir. Et quand on lui demande de dire où elle se tenait quand elle a tiré, elle dit qu'elle a tiré entre les deux sièges avant. On pose la même question à Samantha. Elle dit qu'elle a vu sa mère tirer entre l'appui-tête et le montant de la portière conducteur. Voyons comment la cour d'assises va se dépatouiller avec tout ça. Et c'est donc en tant que témoin que Samantha assiste au procès de sa mère qui s'ouvre le 18 mai 2010 devant la cour d'assises de la Moselle. Les 12 frères et sœurs de Raphaël sont assis sur le banc des parties civiles. On ne leur a pas rendu de cadavre. Et donc ils attendent que Simone prenne cher, qu'elle prenne le max. Mais Simone, elle, s'accroche à sa ligne de défense. Elle a voulu débarrasser sa famille d'un prédateur violent. Il l'a battait, il battait les enfants, il a violé sa fille aînée. Elle réclame des circonstances atténuantes. Alors on fait venir les enfants à la barre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ce que dit votre mère? Et d'une seule voix, les petits confirment. Ils confirment tous. Sauf l'aîné. Sauf Valérie. Sauf celle que le père est censé avoir violée.
Il m'a pas violée. Il m'a pas violée. J'ai menti.
Et là, Samantha se lève furieuse. Furieuse de voir sa sœur aînée se désolidariser. Et elle lui dit
« On aurait dû t'inviter au barbecue de ton père. »
« On ? On aurait dû t'inviter ? Pourquoi est-ce qu'elle dit « on » ? Est-ce que Samantha ne vient pas de dire, sans le vouloir, hein, qu'elle a eu un rôle beaucoup plus actif que ne le prétend sa mère et qu'elle ne le prétend elle-même dans l'assassinat de Raphaël ? Le verdict tombe. Simone ne s'en sort pas mal. 17 ans de réclusion criminelle. Le verdict sera confirmé en appel. Quant à Samantha, elle est jugée devant le tribunal pour enfants de Sarreguemines et elle est condamnée à 18 mois de prison avec sursis pour avoir modifié la scène de crime, aidé à transporter le cadavre et à le brûler. Il y a eu dans la foulée une tentative des frères et sœurs de Raphaël de faire rouvrir ce dossier pour incriminer l'amant. François. Mais la Cour de cassation a refusé. Et donc Simone est définitivement la seule et unique meurtrière de son mari.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.